VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan qui juge l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo va établir aujourd'hui un calendrier de passage de personnalités ivoiriennes. C'était depuis plusieurs semaines la pomme de discorde entre l'accusation et la défense. Nani Talani.
Le président de la cour, Boaki Kouadio, va proposer un nouveau calendrier permettant de citer des personnalités ivoiriennes. La défense exigeait la présence de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion et président de l'Assemblée nationale, Jeannot Kouadio Aoussou, ancien premier ministre, Charles Koffi Dibi, ancien ministre et bien d'autres personnalités. Cependant, rien ne prouve qu'elles feront le déplacement. Après une suspension de 2 semaines, le procès a pu reprendre hier grâce à la médiation de Maître Abeyao, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Madame Gbagbo est jugée depuis le 31 mai pour crime contre l'humanité. Elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Gambie, le chef de l'État gambien Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes lors de l'élection présidentielle de jeudi face à une opposition qui fait bloc autour de son candidat. Les trois postulants, Yahya Jammeh, Adama Barrow, désigné par 7 pays d'opposition, et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation, sont tous âgés de 51 ans. Ils achèvent leur campagne électorale ce mardi. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur quelques 2 millions d'habitants sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Burundi, le responsable de la communication présidentielle du pays, Willy Nyamitwe, figure publique du pouvoir, a échappé lundi soir à une tentative d'assassinat. Première du genre depuis des mois, il signe que le pays reste extrêmement instable. M. Nyamitwe sortait d'une réunion à la présidence et rentrait chez lui lorsqu'il a été accueilli par un feu nourri et des explosions de grenades au moment où il s'engageait sur la petite route qui mène chez lui dans le quartier de Kajaga, dans l'ouest de la capitale Bujumbura. C'est ce qu'a assuré à l'AFP au cadre de la présidence sous couvert d'anonymat. Le responsable de la communication présidentielle a été légèrement blessé et recevait des soins dans un hôpital de Bujumbura. L'un de ses gardes du corps a été tué et un autre blessé. La police assure que les assaillants non identifiés étaient embusqués dans une maison en construction. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Une enquête est en cours. Audience publique ce mardi au Congrès américain sur la République démocratique du Congo et plus précisément devant la Commission des droits de l'homme. Il sera question de démocratie pour les panélistes qui s'exprimeront devant les représentants du peuple américain alors que la date du 19 décembre, fin du mandat du président congolais Joseph Kabila, approche à Kinshasa et qu'aucun compromis n'a été trouvé entre toutes les composantes de la classe politique congolaise. Parmi ceux qui vont témoigner tout à l'heure au Congrès se trouve un professeur d'origine congolaise à l'université Johns Hopkins dans le Maryland, Mwemba Dizolele. Voilà ce qu'il dit des signaux que projette Washington sur la crise en RDC.
À Washington, la situation est plus nuancée que ça. Washington ne parle pas d'une même voix. Il y a le Congrès où il y a différentes voix. Il y a l'ambassade américaine à Kinshasa qui est plus peut-être modérée dans ses déclarations. Mais il y a aussi le département d'État et l'envoyé spécial. Donc même là, je pense qu'on est d'accord que les États-Unis encouragent le pourparler. Mais les États-Unis tiennent à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, le respect de la Constitution accorde au président 2 mandats de 5 ans chacun. Au cas échéant, la Constitution prévoit que le transfert de pouvoir va du côté du président du Sénat, qui va gérer une transition pour 90 à 100 jours. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est quand même difficile de croire qu'on pourrait avoir les élections dans 90 jours. La commission électorale a commencé la révision du fichier électoral, ce qui prendra du temps. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faudra gérer, mais l'esprit de la Constitution, tel que les États-Unis l'encouragent, demande à ce que les stipulations soient respectées.
Le professeur Mwemba Dizolele de l'université Johns Hopkins dans le Maryland, ici aux États-Unis. Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tiendra ce mercredi à Libreville, au Gabon, à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. la lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun et au Tchad, les affrontements entre groupes armés en Centrafrique, l'instabilité politique en RDC et au Burundi devraient être au menu de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La situation et les tensions post-électorales au Gabon, au Congo et au Tchad devraient aussi être évoquées, a indiqué le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, cité par plusieurs sites d'information africains.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Zimbabwe, nouvelle monnaie sous forme de billets d'obligation. L'initiative répond au souci de résoudre le problème de manque de liquidité. Mais cette monnaie suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires. Herzi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée en Afrique du Sud, pense que le changement de monnaie au Zimbabwe est une entreprise vaine.
Déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenant de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen, qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà. À maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Herzi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée au Cap en Afrique du Sud. Retour en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Environ 4000 accidents de la circulation sont enregistrés par an. La majorité des automobilistes sont obligés de prendre en charge les frais de réparation faute d'assurance. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de la route dans les hôpitaux et autres centres de santé en Guinée. Ils sont plus de 1400 blessés graves enregistrés par an, mais des malades dont la majorité n'est pas assurée. Le centre Mère et Enfant traite parfois des malades avec ses propres moyens. Mamadou Debari, médecin.
On rencontre des difficultés parce que parmi ces patients, il y a beaucoup d'indigents qui ne peuvent pas faire face aux frais des prestations. Ils sont obligés d'utiliser les maigres moyens de la structure pour traiter ces patients.
Les personnes non assurées devraient pourtant être prises en charge par un fonds de garantie automobile. Mais cette structure mise en place par l'État guinéen et dont la caisse est alimentée par les sociétés d'assurance est peu connue du grand public. Pour Ibrahima Keita, ex-secrétaire général de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, cette défiance s'explique.
Quand on parle par exemple de l'assurance vie, la Guinée est un pays de musulmans à 85%. Beaucoup sont réticents sociologiquement et culturellement à l'assurance vie. Et aussi le revenu fait que certains Guinéens ne s'intéressent pas à l'assurance. Quand vous prenez l'assurance automobile, par exemple, en Guinée, sur 100 véhicules qui circulent, vous avez à peine 25-30 véhicules qui sont assurés. Donc, si le taux de pénétration est faible, la masse des assurés est faible, cela fera que la trésorerie des sociétés d'assurance sera elle aussi faible.
L'assurance automobile est obligatoire en Guinée, mais elle peine à être effective.
Les lois de notre pays en matière d'assurance ne sont pas respectées. Il y a des lois qui oblige les usagers de la route à prendre l'assurance automobile. Il y a une loi aussi qui oblige l'assurance des marchandises à l'importation. Mais ça ne se fait pas sur le marché. Les opérateurs économiques n'assurent pas leurs marchandises à l'importation. Il y a aussi une loi qui oblige les entreprises minières, les entreprises de travaux publics et de construction, etc. Bref, toutes les grandes entreprises à souscrire des contrats d'assurance en Guinée. Parce que les risques sont localisés en Guinée.
La Guinée a un nouveau code d'assurance. C'est le texte de 1995 qui a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre au secteur des assurances de participer plus activement au développement du pays. Conakry, Zakaria Kamara, pour la Voix de l'Amérique.
Et pour terminer, Amnesty International a dénoncé aujourd'hui le non-respect par l'Espagne du droit d'asile dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, des territoires sans droit pour les migrants et réfugiés, selon l'ONG de défense des droits humains. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.